Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, il s'agit du dernier dimanche de l'année. Vous le savez, la liturgie a pour but de nous introduire dans le temps divin. Voilà pourquoi ça recommence sans cesse selon le même mode. Et du début de l'année, qui est le premier dimanche de l'Avent, où on attend le Seigneur, on médite sa venue sur terre, sa prédication, sa mort ignominieuse, sa résurrection, la vie de l'Église, jusqu'à la consommation des temps, qui est le Christ roi de l'univers. Et si d'aventure la fin des temps ne survenait pas cette semaine, ne vous inquiétez pas, nous recommencerions à méditer la venue du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Alors cette fête est une fête très importante qui a été instituée en deux temps. D'abord entre deux guerres par le pape Pie XI qui avait institué le Christ roi tout court. Et puis un peu plus tard, on changea un petit peu l'esprit de cette liturgie en l'appelant le Christ roi de l'univers. Vous allez me dire ce qu'il y a une grosse différence. C'est la même fête, heureusement, mais vue sous deux côtés différents. La première, le Christ roi, c'est la contemplation du royaume de Dieu aujourd'hui. Et la deuxième, c'est la contemplation de la fin du monde, de l'achèvement du règne de Dieu. Les chrétiens sont toujours dans cette tension entre quelque chose qui est déjà réalisé, le salut nous est déjà donné, et puis la réalisation dans notre temps, pour nous, où nous complétons dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Et vous le savez, ce qui manque aux souffrances du Christ, ontologiquement, c'est rien du tout. Ce qui manque, c'est nous. C'est à moi que manquent les souffrances du Christ pour être sauvé. Alors je dis un mot du Christ roi, la vision du royaume du Christ sur cette terre, et la vision du royaume du Christ eschatologique. D'abord le Christ roi. Ne nous y trompons pas, quand je dis sur cette terre, ce n'est pas de cette terre. Vous voyez, c'est la question qui inquiète Pilate, c'est toujours la même question, es-tu roi ? Voilà. Pilate, ça l'intéresse pas cette histoire de blasphème, il n'en a rien à faire, il n'en a cure, c'est pas son domaine. Et puis, les jalousies des juifs les uns envers les autres, c'est pas son affaire non plus. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si oui ou non, cet homme est un séditieux qui va prendre le pouvoir contre Rome. Donc, est-ce qu'il est roi ? Et la réponse va être compliquée à entendre pour Pilate. Notre Seigneur va clairement commencer par dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si j'étais de ce monde, j'aurais des gardes, etc. etc. » Vous voyez la constance de l'histoire. De Pilate à Staline, c'est toujours la même question. Ceux qui n'ont pas de vision surnaturelle ne peuvent se limiter qu'ici. Le pape, combien de divisions ? Vision humaine, c'est celle de Pilate. Mais voilà, justement, si le Saint-Père Pie XI a voulu l'instauration de cette fête à un moment assez précis de l'histoire, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas pour rien. C'est que l'Église, tout au long de sa vie, a tenté de se démarquer du pouvoir temporel dans des situations très différentes. D'abord sous l'Empire romain, où elle était persécutée, où elle acceptait de respecter les lois de l'Empire, mais pas les lois d'adoration de l'empereur. Le paganisme essaye toujours de réduire l'éternel à l'actuel. Pour un païen, ce qui est éternel, ce n'est que de l'actuel un peu plus puissant. C'est un petit roi quelconque, c'est les dieux de l'Olympe ne sont jamais que des hommes surmontés de qualités magnifiques. Et cette tentation va courir tout au long de l'histoire, y compris dans l'Église. Hein ? Car au moment où l'Église avait pignon sur rue, si j'ose dire, partir de Constantin pour faire simple, eh bien l'Église va quand même essayer de se démarquer du pouvoir temporel pour n'y être pas assujetti. Même pour la bonne cause, même pour le bien, dans le pouvoir de Charlemagne, par exemple, même pour cette raison-là bonne, l'Église ne veut pas être confondue avec le pouvoir temporel. Alors, c'est au XXe siècle où, après la venue de la raison triomphante, les sciences de la fin du XIXe, où enfin nous allons réfléchir n'être plus sous l'obscurantisme, être libéré, c'est alors que, évacuant Dieu, les deux pires idéologies du monde survinrent avec des massacres comme il n'y en a pas eu depuis le début de l'humanité et comme nous espérons qu'il n'y en aura plus. Je veux parler évidemment du marxisme et du fascisme étatique ou racial, si vous prenez l'État ou la race en fonction du nazisme ou d'un autre fascisme, deux idées perverses qui réduisent la présence surnaturelle soit à la matière, soit à une organisation humaine, soit à une race. Dans tous les cas, c'est la réduction de Dieu à une idée humaine ou à une réalité humaine. Alors je ne suis pas certain que nous en ayons fini avec le paganisme et avec la tentation de réduire l'aspiration divine des hommes, de réduire ce qu'ils ont de plus beau, c'est-à-dire leur destinée céleste. Mais voilà, destinée céleste ne veut pas dire indifférence pour le monde. Voilà pourquoi cette royauté, c'est une manière de l'exercer. Notre gouvernement doit s'exercer. Dès la Genèse, le Seigneur a dit à l'homme qu'il le plaçait dans le jardin d'Éden pour le garder, le travailler, et il a dit à Adam et Ève de multiplier et de soumettre la terre, de la gouverner. C'est notre rôle de gouverner le monde temporellement, dans vos familles, dans vos cités, dans la nation, dans le monde. Il nous appartient de gouverner. Mais voilà, il nous appartient de gouverner en sachant que ce n'est pas la fin de toute chose, que nous allons remettre notre pouvoir, le soumettre au pouvoir divin. C'est pourquoi j'ai fait placer cette couronne, symbole de pouvoir, au pied de l'autel. C'est ce que fit le roi Louis XIII en consacrant la France à Dieu par Marie. Il remit sa couronne. Il n'y a pas de plus grand acte pour un grand gouvernant que de savoir qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga, parce que c'est le Christ, qu'il n'est pas la fin du gouvernement, qu'il n'est que l'instrument de la réalisation de la justice sur terre dans l'attente de la venue du royaume. Évidemment, cette royauté n'est pas un bénéfice pour le Seigneur. Saint Augustin nous le dit, quel était l'intérêt pour le roi des rois de devenir le roi des hommes? Le seul intérêt, c'était sa volonté d'exercer son empire de salut, de venir jusqu'à eux et de nous sauver. Encore aujourd'hui, quand nous nous livrons à Dieu, quand nous livrons notre empire à Dieu, quand il y a plus grand que vous, quand ce n'est pas vous qui êtes Prométhée, mais que vous êtes créé par Dieu, vous reconnaissez cet empire et vous vous livrez au seul Père bon qui veut votre bonheur. Alors évidemment, pour comprendre cela, ce que Pilate n'a pas compris, il y a quelque chose d'essentiel, comprendre que cette royauté va s'établir par la seule force de la vérité. Je regrette qu'on ait coupé un peu trop vite le texte d'aujourd'hui. La phrase d'après, après cette belle explication du Christ à Pilate qui lui dit « Mais je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Vous connaissez la cinglante et terrible réponse qui est une condamnation pour Pilate. Mais qu'est-ce que la vérité? Alors, à chaque fois que vous achopperez à cette question « Qu'est-ce que la vérité ?», vous achopperez à la question de la reconnaissance de Dieu. Mon deuxième point sera plus simple et plus rapide en un sens, car il est plus inatteignable. Cette royauté que nous voulons établir ici et maintenant, dans le monde, elle n'a bien sûr que deux buts, la royauté éternelle, l'eschatologie finale, quand le Christ viendra tout assumer et tout reprendre. Parce que il n'a pas pris ce pouvoir par violence, dit saint Cyrille d'Alexandrie. Il ne l'a même pas reçu d'ailleurs. Ce pouvoir, il l'a par essence, par nature. Le roi des rois, c'est celui qui, à la fin du monde, viendra réadopter le monde. Le monde, la terre et tous ses habitants. Ce qui vient de Dieu retourne à Dieu. L'origine du monde, sa cause première, est aussi sa cause finale, disent les philosophes. c'est-à-dire comme ça a commencé, ça finira avec les hommes jusqu'aux étoiles, car ça a commencé des étoiles jusqu'aux hommes. Cette autorité du Christ, nous voulons évidemment, nous, y contribuer en la méditant et en posant l'acte liturgique qu'il a fait advenir. C'est ce que vous êtes venu faire ce matin. Tout à l'heure, au centre de la messe, au centre même du sacrifice eucharistique, je vais redire les paroles de la présence du Christ, les paroles de la consécration, et votre réponse sera « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Oui, nous autres chrétiens, messe après messe, méditation après méditation, action après action, nous attendons la réalisation de la venue du Christ sur cette terre, nous attendons qu'enfin nous soyons réadoptés pleinement par Dieu, nous attendons la sanctification. Voilà le sens de notre action. Bien sûr, nous nous réunissons pour prier ensemble, pour constituer cet acte même du Christ qui est l'Église, dans ses membres que vous êtes, et cela n'a d'autre but que de le faire advenir. D'abord sur moi, dans mon cœur, ensuite jusque aux extrémités de la terre. Ainsi soit-il.